Lyonnais, il est 12h. Le journal de midi, César Yao.
Bonjour à tous, tout de suite le sommaire de ce jeudi midi. Célébration aujourd'hui de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. En Côte d'Ivoire, les enfants de moins de 5 ans demeurent les premières victimes avec 80% des cas de décès. Pour cette commémoration, le gouvernement et ses partenaires ont mis l'accent sur les actions pour faire obstacle à l'équité sanitaire. Le Front populaire ivoirien FPI demande une enquête parlementaire sur la filière café-cacao pour Kwaku Kra, vice-président du parti. En charge des questions électorales, cette initiative vise à faire éclater la vérité afin que le Parlement puisse formuler des recommandations. Dans l'actualité internationale, le retrait des troupes américaines au Niger déployées dans le cadre de la lutte antiterroriste au Sahel se précise. Une réunion sur les modalités se déroule aujourd'hui jeudi à Niamey, annonce le département d'État américain. En toute fin d'édition, l'invité de la rédaction, Francis Cassis, sera avec Patrice Straka, le secrétaire général du COGEP, au cœur de l'entretien, la position du parti sur l'actualisation de la cartographie électorale. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous, c'est aujourd'hui 25 avril que l'on célèbre la journée mondiale de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Les festivités officielles se sont déroulées mardi dernier à la sous-préfecture de Boaké. Le thème retenu pour cette 17e édition est renforcer, n'est-ce pas, le traitement dans l'équité, le genre. Et bien pour cette commémoration, le gouvernement ivoirien et ses partenaires ont mis l'accent sur les actions pour faire obstacle à l'équité sanitaire. On fait le point avec Paul Bénédicte Bolou.
Il est à ce jour important de porter un regard sur les inégalités en matière de santé. Docteur Fatim Tall, chef de bureau de l'OMS au nom des partenaires.
Dans le contexte spécifique des maladies à transmission vectorielle, lorsque les inégalités sont associées à la résistance aux médicaments et aux insecticides, à la fragilité des systèmes de santé, la santé des personnes les plus vulnérables s'en trouve davantage compromise et les efforts déployés pour franchir la dernière étape du processus d'élimination du paludisme entravé. Voilà pourquoi pour cette édition 2024, l'OMS et d'autres partenaires mettront l'accent sur les actions nécessaires à l'égalité des genres et aux droits humains dans la riposte au paludisme en Afrique et partout dans le monde.
Le paludisme demeure un problème de santé publique. Professeur Soro Kuntele Gona, conseiller du ministre de la Santé.
Les données épidémiologiques révèlent une augmentation de l'incidence et les décès avec respectivement 240 millions de cas de maladies de paludisme et 608 000 cas de décès. En Afrique, l'incidence du paludisme reste élevée à 233 millions et 580 000 cas de décès. Les enfants de moins de 5 ans demeurent les premières victimes avec 80% des cas de décès. En Côte d'Ivoire, la situation du paludisme demeure préoccupante pour le gouvernement.
Notons que pour cette année 2024, la Côte d'Ivoire a introduit le vaccin contre le paludisme chez les nourrissons dans le PEV.
Direction l'intérieur du pays, notamment à Korogo, où suite à la décision de l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique relative à la suspension de la fabrication et de la commercialisation de produits à totem original 100% naturel et la paire Konyo Moussoyako. Eh bien, le collectif des employés et revendeurs de ces deux entreprises mentionnées ont rencontré le préfet de la région du Poro, André Eponon, Assoumou. Objectif, demander son implication en vue de la levée de la mesure. Compte rendu signé, Tommy Corona.
En sa qualité de porte-parole du collectif des employés et revendeurs des entreprises Atoté et Konyomuso Yako, Dame Ouattarawa lance un cri du cœur.
Vraiment, on n'a pas de métier à faire. Surtout moi-même, je suis une mère célibataire. Mes enfants sont à ma portée. C'est là que je me débrouille pour pouvoir avancer la scolarisation de mes enfants. Donc, à la fermeture de ce coin, vraiment, Ça ne nous arrange pas. Surtout moi-même, ça ne m'arrange pas.
Koulibaly Ziyenanguin, imprimeur de son état, dit ne pas comprendre la décision et pour cause.
Nous n'exercions pas dans l'illégalité. Atote est l'un des rares tradis praticiens qui avait toute la documentation en sa possession. Il exerçait au vu et au su de tous. Nous avons même été décorés par le chef de l'État de ce pays. Alors du jour au lendemain, quand on jette le discrédit sur notre produit, on se pose des questions. C'est toute la crédibilité même de nos institutions qui est remise en cause. Et donc nous en appelons aux autorités pour qu'on revoie cela.
Le jeune étudiant Silué Nivega Adama en appelle à la bonne compréhension des autorités, d'autant plus que 2023 avait été décrété année de la jeunesse.
Donc nous demandons une doléance au gouvernement de la Côte d'Ivoire, qu'ils aient pitié de cette jeunesse qui pense à la jeunesse de Korogo. Donc nous demandons une doléance à notre papa, en tant que le président, qui ait pitié vraiment de nous.
Le préfet André Pono Assomou dit avoir pris bonne note et transmettra à qui de droit. Tommy Corona, Korogo, pour Radio de la Paix.
Retour à Abidjan, à l'initiative de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS. Il a été organisé à San Pedro, précisément la 28e journée africaine de la prévention des risques professionnels et la 22e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Objectif de ces journées, réfléchir à l'impact du changement climatique sur la sécurité au travail tout en relevant les défis et stratégies d'intervention. Des détails avec Benson Koffi, notre correspondant dans le Bassassin Ndra.
À l'entame des travaux, c'est Kone Mimel, contrôleur en prévention à la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale et membre du comité scientifique des journées, qui a relevé l'état d'exécution des recommandations de 2023.
Sur les 5 recommandations formulées, il y a une qui a été mise en œuvre à 100% et 2 qui sont en cours de mise en œuvre et une qui n'a pas connu vraiment de mise en œuvre effective. Mais il y a un comité qui est mis en place. Donc les recommandations qui n'ont pas été mises en œuvre ou qui sont en cours donc feront l'objet de suivi.
Dans son discours d'ouverture, le directeur général adjoint de la CNPS en charge de l'exploitation Idriss Traoré a indiqué que malgré les progrès industriels et technologiques, le monde du travail reste encore marqué par des chiffres alarmants d'accidents de travail et de maladies professionnelles.
En Côte d'Ivoire, la CNPS a enregistré sur ces 3 dernières années en moyenne 7000 accidents de travail, dont des cas mortels. Ces lésions professionnelles occasionnent des dépenses de réparation et de prise en charge qui sont estimées annuellement à environ 8 milliards de nos francs. Au niveau des entreprises, les coûts liés aux ATMP se chiffrent à environ 32 milliards de francs CFA.
Certains secteurs d'activité, selon Idriss Traoré, présentent un profil accidentogène particulier.
Il s'agit notamment des secteurs de l'agriculture, de la construction, de l'industrie extractive, du secteur manufacturier et des services de santé. Aussi, à l'heure où nous entamons la mise en œuvre du régime social des travailleurs indépendants, il convient de préciser que toutes les catégories de travailleurs sont impactées par ces mesures.
La célébration 2024, qui se déroule en 3 jours, est organisée simultanément à Abidjan, Boaké et San Pedro.
Le député Pascal Lafingessan, président du FPI, vient de prendre l'initiative d'une enquête parlementaire sur la filière café-cacao à travers un courrier adressé au président de l'Assemblée nationale pour Kwaku Krah, vice-président du FPI en charge des questions électorales. Eh bien, cette initiative d'enquête parlementaire vise à faire éclater la vérité et faire des recommandations. L'écoutons.
Depuis un certain temps, il y a une crise dans la filière café-cacao. Le président Pascal Lafingessan, au-delà de son parti politique, se saisit de cette question parce que dans l'État, il y a des mécanismes pour connaître de la vérité quand il y a un problème. Et l'un des mécanismes, c'est l'enquête parlementaire. Donc, il s'est saisi de la question pour que le Parlement puisse se saisir de cette question pour interroger toutes les parties prenantes à cette filière-là pour que, enfin, la vérité éclate. Et quand la vérité éclate, ce n'est pas pour sanctionner quelqu'un, c'est dans l'intérêt de tous pour que le Parlement puisse formuler des recommandations de sorte qu'il y ait l'apaisement.
Est-ce que le Parlement va donner une suite à ce courrier du président Pascal Afinguessan.
C'est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, c'est dans l'intérêt même du gouvernement. Et cette vérité-là ne peut que provenir du Parlement et non pas d'un parti politique.
Vous avez parlé d'éclatement de la vérité.
Il faut voir quels sont les tenants et les aboutissants. Et à partir de là, s'il y a des fautifs, je crois que dans les recommandations, des décisions seront prises.
Voilà, à l'instant, Kwaku Kra, vice-président du FPI en charge des questions électorales, était avec Constant Maïlé. Paix et sécurité, selon les chiffres annoncés par le Conseil national de sécurité au début du mois de février 2023, près de 9000 personnes venant du Burkina Faso fuyant les attaques terroristes auraient franchi la frontière pour trouver refuge ici en Côte d'Ivoire. Eh bien, ce flux occasionne des risques sanitaires, socio-économiques et même environnementaux. C'est ce qui ressort d'une étude menée dans le cadre du projet Résilience pour la paix par les ONG. Equal Access et Indigo Côte d'Ivoire, un webinaire a eu lieu mardi dernier en vue de présenter ce rapport dans les moindres détails. On en parle avec Ghislain Koulibaly.
L'étude permet dans un premier temps de mieux comprendre les raisons de ce déplacement massif. Bleu Patricia de l'équipe de recherche.
Pour certaines communautés, il fallait anticiper sur l'idée de se mettre à l'abri.
Se mettre à l'abri des attaques, mais aussi échapper au recrutement des volontaires pour la défense de la patrie au Burkina Faso. Dans le lot figurent également ces personnes qui nourrissaient depuis très longtemps l'idée de venir en Côte d'Ivoire.
Le réflexe des demandeurs d'asile, c'était de s'orienter vers les zones géographiques les plus proches. La deuxième configuration, c'est la proximité culturelle ou le lien de parenté.
Le rapport mentionne des préférences géographiques selon les activités pratiquées par les demandeurs d'asile. Bleu Patricia.
Du côté de Bountani, nous avons vu l'arrivée massive des éleveurs. Du côté de Kong, Kafolo, on a vu, ou Touba, on a vu l'arrivée des agriculteurs. Parce que cette localité favorise l'installation, la prospérité des agriculteurs.
Toutefois, la chercheuse alerte sur le déplacement des demandeurs d'asile vers d'autres régions de la Côte d'Ivoire.
Il faut essayer d'avoir le projecteur sur Dabakala, sur Katiola, sur Bouaké, où les gens s'orientent de façon massive.
La mise en œuvre de réponses rapides et des sensibilisations sur les questions de paix, de cohésion et de vivre ensemble s'impose.
Plus de 1600 jeunes acteurs du monde du transport artisanal, communément appelés Gbaka et Worworo, ont reçu leur parchemin de fin de formation dans le cadre du projet de mobilité urbaine d'Abidjan hier mercredi lors d'une cérémonie présidée par le ministre des Transports Amadou Koné. Ce projet de formation vise à la professionnalisation des acteurs du secteur du transport en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Jean-Mélène Biti.
Pour Meïté Bouaké, directeur général de la Soutra, cette formation, en plus d'être bénéfique pour les chauffeurs, elle l'est aussi pour son institution.
Nos formateurs à l'Institut Soutra bénéficient des modules qui n'étaient pas enseignés à la Soutra. Merci à tous les partenaires pour cette opportunité que vous donnez à la Soutra.
Sur le contenu de ce projet, Kwaku Kwaku Romain, directeur général de la MUGA.
On a su la formation, mais en même temps, on va aider les promoteurs à renouveler leur parc automobile. Et aussi, on va essayer de créer des pôles d'échange, du milieu légal humain pour leur permettre de travailler convenablement.
Diaby Ibrahim, directeur général du Haut Conseil des patronats des entreprises du transport routier, a au nom des récipiendaires pris un engagement.
Ce que nous pouvons vous garantir, au nom de cette jeunesse, nous nous engageons à vos côtés, à tout mettre en œuvre pour que sur les routes ivoiriennes, nous puissions avoir des jeunes Ivoiriens qui ont de bons comportements.
Lors de cette cérémonie, Amadou Koné a donné quelques chiffres concernant les décès des chauffeurs liés aux accidents de la route.
Il y a 782 chauffeurs qui ont été tués dans les accidents de la route de 2020 à fin 2023. C'est pour cela que je me réjouis de ce que dans cette formation, il y a un aspect important qui est lié au respect du code de la route.
Au responsable de la MUGA, le ministre des Transports demande ceci.
Je demande à la MUGA de faire en sorte qu'il y ait dans le suivi de ce qui est fait, des formations, des mises à niveau sur les outils modernes de gestion des entreprises de transport.
C'est près de 5500 jeunes qui seront formés dans le cadre de ce projet.
Les régulateurs des médias des pays africains de l'espace francophone et les plateformes en ligne vont désormais assurer ensemble le contrôle et la régulation de la communication sur les supports numériques. C'est là l'objectif de la conférence des régulateurs des médias qui s'est tenue à Abidjan du 23 au 24 avril dernier. Compte rendu signé Mel Emmanuel.
C'est par la signature de la déclaration d'Abidjan que s'est terminée cette conférence, réunissant autour de la table de discussion les régulateurs de médias de l'espace francophone d'une part, et d'autre part, les plateformes numériques. Au sortir de la rencontre, la présidente du réseau des instances africaines de régulation de la communication, Latifa Arbache, s'est exprimée sur l'importance de cette déclaration.
C'est une déclaration qui rappelle la nécessaire responsabilisation des acteurs du numérique, mais qui rappelle que chacun a son rôle à jouer et pour moi c'est important que cette déclaration puisse faire passer le message du nécessaire travail commun entre les régulateurs et les acteurs du numérique.
De plus, au travers de la déclaration d'Abidjan, l'Afrique s'inscrit en tant qu'actrice dans la dynamique de régulation mondiale de l'espace public médiatique numérique. Latifa Arbache.
Nous ne pouvons pas être seulement des spectateurs de ce dynamisme régulatoire qui s'est installé dans le monde. L'Afrique doit être acteur de cet effort mondial harmonisé et concerté que nous appelons de nos voeux. L'Afrique doit participer à la construction d'un consensus international sur l'idée et la nécessité de réguler les plateformes.
Tenue du 23 au 24 avril 2024 sur le thème « Réguler les services numériques » pour un dialogue renforcé entre les régulateurs et les grandes plateformes en ligne sur le continent africain et dans l'espace francophone, la conférence d'Abidjan s'inscrit dans la perspective du 19e sommet de la francophonie prévu du 4 au 5 octobre prochain en France.
Dans l'actualité internationale, lors des discussions sur un retrait ordonné et responsable des forces américaines du Niger, c'est ce qui commence aujourd'hui, jeudi, à Niamey. Côté américain, l'ambassadrice au Niger, Kathleen Folgon et le général de division Ken Ekman, directeur de la stratégie de l'engagement et des programmes du commandement des États-Unis pour l'Afrique, rencontrent les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et ce n'est qu'un début. La semaine prochaine, d'autres hauts responsables militaires américains tiendront des réunions de suivi à Niamey. Ces discussions sur le processus de retrait doivent avoir lieu dans la transparence et le respect mutuel, indique le communiqué du département d'État américain. À présent, l'invité de la rédaction, le secrétaire général du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COGEP. Il dit ne pas comprendre pourquoi la CEI veut forcer précisément pour faire une opération d'actualisation de la cartographie électorale tout en appelant au dégel des avoirs et à la réinscription sur la liste électorale de Charles Blé Goudé, président du parti. Dr Patrice Saraka répond à cet effet aux questions de Francis Kassi.
Dr Patrice Saraka, bonjour.
Bonjour, monsieur Francis Kassi.
Alors, l'opération d'actualisation de la cartographie électorale de la CEI est condamnée par votre parti, le COGEP. Pourquoi?
Il faut d'emblée préciser que pas l'opération en tant que telle que nous condamnons. C'est la méthode qui est utilisée, c'est la précipitation de la CEI à vouloir conduire un si important processus que nous condamnons. Sinon, la mise à jour de la cartographie électorale est une opération qui est intimement liée à l'établissement du répertoire des lieux et bureaux de vote. Et donc, on ne peut pas condamner une telle opération dans son principe. Ce sont les modalités de sa mise en œuvre que nous condamnons en fait. Des voix se sont levées au niveau de la classe politique que de la société civile ivoirienne pour que l'opération soit bien conduite et que nous puissions atteindre l'objectif à terme dans une approche inclusive.
Le président du COGEP, Charles Blé Goudé, a récemment dénoncé ce qu'il qualifie de gel de ses avoirs, tout en réitérant aussi son appel à sa réinscription sur la liste électorale. Qu'en pensez-vous?
C'est une situation assez particulière que vit le président du COGEP, qui, on le sait, revenu de la CPI, de la Haye, a entamé une tournée d'apaisement, de pardon, de reconnaissance pour que les Ivoiriens vivent en harmonie. En un mot, a contribué fortement à la paix et à la réconciliation entre les Ivoiriens. Force est de noter que malgré ses efforts, alors que un certain nombre d'acteurs politiques pro-Gbagbo ont bénéficié de grâces ou d'amnistie, de dégel de leurs avoirs. Certains même ont été réintégrés à la fonction publique, ce qui est une très bonne chose. Charles Goudé s'interroge. Pourquoi le président décide-t-il de tourner définitivement la page de la crise post-électorale et arriver sur la page Charles Goudé, ils sont vouloir plier cette page. On ne comprend pas.
Mais récemment, le porte-parole du gouvernement, à l'issue de son point par rapport au dernier conseil des ministres, a répondu à cette interpellation de Blé Goudé, disant que Blé Goudé gagnerait à aller vers la justice pour résoudre ce problème.
Oh, c'est une fuite en avant. Charles Goudé a été condamné à 20 ans. C'est pas un problème judiciaire, c'est un problème politique. La Côte d'Ivoire a estimé qu'il était bon d'envoyer Charles Goudé face à la justice internationale. Ce sont les mêmes faits qui sont reprochés à Charles Goudé ici, après son acquittement là-bas. Parce que, à l'analyse, les faits pour lesquels Charles Goudé a été condamné à 20 ans ici en Côte d'Ivoire sont exactement liés aux faits pour lesquels il a été jugé et blanchi à la CPI. Et c'est la Côte d'Ivoire elle-même qui a envoyé Charles Goudé. Elle aurait pu décider de juger Charles Blé Goudé ici.
Pour vous, Charles Blé Goudé a été jugé deux fois pour les mêmes faits?
Oui, pour nous, il est clair que Charles Blé Goudé a été jugé pour les mêmes faits ici en Côte d'Ivoire.
Et donc, qu'est-ce que cela pose comme problème selon vous?
Parce que nul ne peut être jugé deux fois pour les mêmes faits. Voilà, c'est un principe de justice.
Quelles sont les démarches que vous entendez mener pour que Blé Goudé ait ses avoirs dégelés et son nom réinscrit sur la liste électorale?
Nous retoquons que ça, ce sont des mesures politiques et administratives à prendre. Et cela de la responsabilité des autorités ivoiriennes. Et donc, le président de la République peut permettre aux Ivoiriens de tourner définitivement la page de la crise post-électorale de 2010.
Pour vous, la réconciliation en Côte d'Ivoire, quel est son état?
Des efforts sont consentis, hein, le moins qu'on puisse dire. C'est même aussi le sens de notre interpellation. Nous constatons que des efforts sont consentis, justement. C'est parce que il y a des efforts qui ont été consentis par le pouvoir, par le président de la République, que nous ne comprenons pas l'attitude particulière vis-à-vis du cas Charles Goudé. On n'a pas de démarche particulière à mener vis-à-vis de la justice. Nous avons l'intention de continuer à interpeller, à appeler, à demander au chef de l'État de faire des efforts supplémentaires pour tourner définitivement la page de la crise. On ne peut pas accepter qu'on enchaîne Charles Goudé alors qu'il veut participer pleinement à la vie politique de son pays. La jeunesse, on le dit, est la richesse de l'Afrique et cette classe politique jeune a envie de démontrer qu'elle constitue une véritable richesse pour les Ivoiriens qui sont sous le poids de la précarité, des difficultés, et nous avons des réponses à ces maux que vivent les Ivoiriens. Il ne faut pas nous enchaîner.
Docteur Patrice Saraka, je vous remercie.
Je vous remercie, monsieur.
Voilà l'instant. Francis Cassier recevait Patrice Saraka, le secrétaire général du COGEP. Voilà qui referme les pages de ce journal. Le rappel de deux titres. À célébration aujourd'hui de la journée mondiale de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire, les enfants de moins de 5 ans demeurent les premières victimes avec 80% des cas de décès. Pour cette commémoration, le gouvernement et ses partenaires ont mis l'accent sur les actions pour faire obstacle à l'équité sanitaire. Enfin, dans l'actualité internationale, le retrait des troupes américaines du Niger déployées dans le cadre de la lutte antiterroriste au Sahel se précise. Une réunion sur les modalités se déroule aujourd'hui, jeudi, à Niamey, annonce le département d'État américain. Fin de ce jeudi midi sur Radio de la Paix. Prochain rendez-vous, 15h. Tout de suite, la revue de presse avec Ghislain Koulibaly.
Bonjour. Nous ouvrons cette revue ce matin avec une